Alors, chers amis, je ne sais pas comment vous vous ressentez, mais si vous êtes ici dans ce cadre de Château de Courrières, j'espère que vous avez trouvé que c'est un beau site pour un week-end d'église. Peut-être que ce n'est pas votre expérience, peut-être que vous n'avez pas eu une chambre aussi confortable que la mienne, mais néanmoins, je pense qu'en arrivant ici pour la première fois, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire, on va faire un week-end d'église dans un château rénové, à un stade moderne, avec un confort considérable. C'est pas comme ça, les week-ends d'église, pour beaucoup d'entre nous. Waouh, quel privilège! Mais si vous êtes comme moi, vous avez fait ça presque 9 ans de suite ici à Courrières, non pas pour le week-end d'église, je pense que c'est la troisième année qu'on fait le week-end d'église ici, mais nous avons fait aussi plusieurs camps ici, plusieurs rassemblements. J'ai même fêté un anniversaire ici il y a longtemps maintenant. Je vieillis. Petit à petit, quel est le danger? C'est que je commence à prendre ces locaux un peu pour acquis. Je suis moins émerveillé qu'avant. Je trouve ça normal que les scouts ont autant d'argent pour rénover un château comme celui-ci. Ils vont maintenant transformer le parking. Apparemment, ils vont d'ici 2 ans retransformer la ferme. Ils avaient déjà fait ça il y a maintenant 20 ans, c'était la première partie. Mais maintenant qu'ils ont tout fait, ils vont commencer à rénover la partie qui est la plus ancienne. Oh, c'est impressionnant ça. Mais je prends ça pour moi maintenant, c'est normal. Hein. Je viens ici, bien sûr, ils vont faire ça. C'est normal, mais non, c'est pas normal pour nous d'être capable de bénéficier pour un prix aussi peu dans un endroit aussi beau. Quel privilège, mais on oublie nos privilèges. Et donc, si vous venez de nous rejoindre, dans un sens, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est de nous rappeler que nous, chrétiens, nous sommes oublieux des privilèges qui sont les nôtres. Nous pouvons penser que notre foi est quelque chose de, comme disait Roby, c'est comme la climatisation. C'est un petit plus, c'est bien, c'est agréable, mais ce n'est pas indispensable. C'est bien d'être chrétien, oui, mais bon, il y a d'autres qui sont d'autres religions. Si je suis né en Inde, je serais hindou, non? Né en Arabie Saoudite, je serais musulman, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, ultimement, d'être chrétien? Eux, ils ont leur pratique. Nous avons les nôtres. Eux, ils ont leur particularité, n'est-ce pas? Nous avons les nôtres. C'est une question plutôt de culture, non? Être chrétien, c'est comme ça. Bien sûr. Je suis chrétien, je suis comme ça. D'autres, ils sont autrement. Ça me rappelle de ce que j'avais entendu d'un autre prédicateur. Ici, Monique a dû traduire ceci pour moi. Parce que lui, dans un aéroport aux États-Unis, il a observé quelqu'un qui portait un t-shirt qui disait ceci: Le taoïsme, ces choses arrivent. Le bouddhisme, si ces choses arrivent, ce n'est pas vraiment ce dont elles ont l'air. L'islam, si ces choses arrivent, c'est la volonté d'Allah. Le protestantisme, si ces choses arrivent, c'est parce que vous ne travaillez pas assez dur. L'hindouisme, ces choses sont arrivées précédemment. Le catholicisme, ces choses arrivent parce que vous êtes mauvais. Hare Krishna, les choses arrivent Rama Rama. Les évangélistes télé, envoyez-nous encore plus de ces choses-là. L'athéisme, ces choses n'existent pas. Les témoins de Jéhovah, toc, 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 il va se passer des choses. L'hédonisme, il n'y a rien de tel que lorsque les bonnes choses arrivent. La scientologie, ces choses se passent dans votre tête. L'agnosticisme, c'est possible que ces choses arrivent, possible que non. L'existentialisme, quoi qu'il en soit, c'est quoi ces choses-là? Le stoïcisme, ces choses-là ne me dérangent pas. Le rastafarianisme, puis-je fumer ces choses? Il y a de l'humour, n'est-ce pas? De l'humour lorsque nous réfléchissons à nos différentes religions. Mais n'y a-t-il rien que cela? Est-ce que ça se résume comme ça? Bien sûr, c'est bien de pouvoir rigoler par rapport à nos faiblesses, par rapport à certaines tendances. Mais si la religion se résume rien qu'à cela, alors nous ne sommes pas enracinés en quelque chose qui va nous persuader que ça vaut la peine de continuer. Les destinataires de cette lettre au livre des Hébreux couraient le danger de penser que c'était pour finir plus compréhensible de revenir vers le judaïsme, avec sa culture à elle, avec les fêtes, avec des cérémonies, avec des prêtres, avec des sacrifices. Oui, ils venaient de là, c'était leur culture. Et peut-être après un temps, ils ont dit, c'était OK, vous avez essayé le christianisme pendant un moment, mais maintenant, mes amis, il faut revenir vers ce qui vous appartient. Vous venez de là. Et donc, ils mettaient une pression sur ces jeunes chrétiens de revenir en arrière. Et nous avons dit jusque-là qu'il y a une telle pression pour nous, pas la même pression, mais il y a néanmoins une pression sur nous aujourd'hui de lâcher la foi en Christ, de dire, oh, pour finir, il n'y a que ça, il n'y a que de l'humour par rapport à ça. Il y a de l'humour, c'est vrai, mais pour la foi chrétienne, on ne peut jamais rester rien qu'avec de l'humour. Parce qu'il y a des choses qui pèsent, des choses importantes, un destin éternel qui est en jeu par rapport à Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais que nous faisons, si vous voulez, un petit rappel des deux séances précédentes. Parce que c'est ça ce que fait l'auteur dans ses trois premiers versets, 19, 20 et 21. Il résume son enseignement jusque-là, surtout à partir du chapitre 7, du chapitre 8. Et il dit « Ainsi donc, frère, à la lumière de ce que nous avons vu. » Et il va commencer à nous exhorter à partir du verset 22. Vous voyez ça? « Approchons-nous. » Verset 23, « Continuons à. » Verset 24, « Veillons. » Verset 25, « N'abandonnons pas. » Mais verset 25, toujours « Encourageons-nous. » Donc, il y a des exhortations pour nous. Mais ces exhortations ont lieu dans le contexte de cet enseignement qu'il a déjà donné. Donc, nous allons revoir, pour ceux qui n'ont pas pu participer, c'est une bonne opportunité aussi pour vous de découvrir en partie ces richesses. Donc, patience, si vous dites, mais on vient de voir ça hier. C'est important qu'on le redit parce que l'auteur ici le redit. Donc, qu'est-ce que nous avons vu par rapport à notre privilège, par rapport à ce qui met la foi chrétienne sur un statut tout à fait autre que ces autres religions? La foi biblique qui appuie sur les promesses de Dieu en nous, en Christ, fait que nous ne pouvons pas simplement autour d'un verre avec le moine. J'étais hier bourreau et je buvais avec le moine. Est-ce que c'est ça? On discute un peu de notre religion et c'est sympa. Mais pour finir, c'est peu d'importance si je suis croyant ou pas. Non, c'est pas ça. C'est super important. Et si nous ne sommes pas persuadés de cela, alors petit à petit, nous allons lâcher ce qui est important pour nous. Qu'est-ce que nous avons vu? La première chose, un libre accès au sanctuaire, cela par le sang de Jésus. Verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Le sanctuaire, si on peut revoir l'image Kuhn maintenant du tabernacle, c'est le lieu très saint qui se trouvait au temple dans l'ancien système. Attends, je vois maintenant que je suis dans le truc. Le sang de Jésus nous donne accès à ce lieu très saint. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Si on revient en arrière, vous trouvez le chapitre 10 à la page 8, page précédente, verset 1. Car si l'ancien système du chapitre 10 répétait sans cesse des sacrifices, présentés perpétuellement, année après année, c'était parce que ce système ne pouvait pas conduire à la perfection ceux qui y participent. Même le grand prêtre qui entrait dans le lieu saint au jour de l'expiation, une fois par an, devait y retourner. Verset 25 du chapitre 9, toujours la même page. Année après année, il devait retourner dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Verset 11 du chapitre 10. Tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous comprenez de nouveau ce temps un peu désespérant qu'ils n'arrivent pas à ôter le péché. Mais verset 26 du chapitre 9, maintenant Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il s'est offert, verset 28, une seule fois pour porter les péchés. Donc ce libre accès au sanctuaire donne... est établi, pardon, deuxième chose, par le sacrifice de Jésus. Ce chemin nouveau par le sacrifice de Jésus. Verset 20 nous dit « Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Le voile, nous en avons parlé plusieurs fois ce dernier temps dans l'Église. Ce voile, c'est ce grand voile-là qui séparait le lieu très saint du lieu saint, ici à droite. Mais ce voile s'est déchiré en deux lors de la mort de Jésus-Christ pour représenter l'accès que nous avons grâce à ce que Jésus a fait dans la présence de Dieu. Encore trois versets du chapitre 10. Donc on est encore dans la page précédente. Verset 10 du chapitre 10. Nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 12. Après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à la droite de Dieu. Verset 14. Par une seule offrande, il conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saint. Pourquoi cet accent sur ce fait une fois accompli, grâce à Jésus, le péché est bel et bien ôté. Définitivement, cela est la promesse, c'était la promesse de l'ancienne alliance. Et maintenant, on arrive à l'accomplissement. Dernier verset du chapitre 10 qu'on a vu la fois dernière, chapitre, verset 17. « Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché, ni de leur faute. » Et puis, il dit au verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi plus de système de sacrifice maintenant? Parce qu'il n'y a plus besoin. Parce que le péché a été ôté. Conséquence de cela, verset 12 du chapitre 9, il obtient pour nous une rédemption éternelle. Éternelle! Non pas jusqu'à ce que je pêche une nouvelle fois. Je suis encouragé par le week-end d'église. Oh, Dieu, il m'aime. Je rentre plein d'enthousiasme, de l'Esprit Saint. Et puis, une semaine plus tard, un jour plus tard, une heure plus tard, je me rends compte de nouveau à quel point je ne suis pas capable par moi-même d'obéir à Dieu. Alors, ça remet en question ? Que Dieu m'aime? Bien sûr que non. C'est une rédemption éternelle dont nous avons à faire. Magnifique, magnifique. Ce chemin nouveau, le sacrifice, ce que Jésus a accompli pour nous. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont payés par le sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez cela? J'avais posé la question hier, mais je pose de nouveau la question. Vous savez cela? Vous-même? Si vous ne savez pas encore cela, vous n'êtes pas encore en Christ. Si vous pensez que Christ, il vous aide afin de pouvoir vous-même faire le nécessaire, Ils n'avaient pas encore compris le drame de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rédemption éternelle. Mon salut dépend de lui. Point. Et ça ne changera jamais. Oh, quel soulagement! Si vous êtes expérimenté dans la foi chrétienne, vous savez à quel point votre salut ne peut pas dépendre de vous. Parce que malgré la présence de l'Esprit-Saint en nous, on n'arrive toujours pas à faire parfaitement ce qu'on aimerait faire. Nous dépendons de Christ seul. Son sacrifice reste notre confiance. Et si son sacrifice est donc meilleur, qui était le cas dans l'Ancienne Alliance, c'est parce que, dernier point ici, il est le grand prêtre institué, verset 21, sur la maison de Dieu. Son sacerdoce, son ministère en tant que prêtre est meilleur. Pas juste un autre exemple d'un ministère semblable des autres prêtres de l'Ancien Testament, mais meilleur. Nous devons être convaincus de cela. Chapitre 8 maintenant. Donc maintenant, je pense que ça, c'est à la page 6. Si on reprend à partir du verset 1 du chapitre 8, « Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. » Verset 3, « En effet, tout grand prêtre est institué pour présenter des offrandes et des sacrifices. » Verset 5, « Sous 6 célèbres le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. « Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Oui, dit-il, le tabernacle, impressionnant qu'il l'était, comme ça, n'était que une copie, une ombre des choses célestes. Lorsque Moïse a reçu des instructions pour la construction, on lui a montré un modèle céleste, ce qu'il allait construire. Le vrai sanctuaire, ce n'est pas ça. C'est là où Dieu habite, où Dieu est présent dans sa sainteté, dans sa plénitude. Il est en haut, il est dans les cieux. Alors, vous voyez la portée de ce qu'il dit? Le tabernacle, maintenant c'est bon, on clean avec l'image, je pense. Le tabernacle, le temple, la loi de Moïse, le sacerdoce lévitique, tout cela dans son temps avait son utilité. Ça venait de Dieu, c'était pour l'instruction, pour l'édification du peuple. Mais verset 6 du chapitre 8, il a accédé à un service, à un ministère d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Nous avons vu que cette alliance, cette nouvelle alliance, dans la promesse de la loi inscrite sur le cœur, le désir d'aimer Dieu, de suivre Dieu. Non pas juste une loi externe, voici ce que vous devez faire. Nous avons vu que ça donne suite à une connaissance réelle, universelle, de Dieu pour tout croyant. Non pas juste pour quelques personnages en tête de la nation. Et nous avons vu que ça donne suite à un pardon définitif des péchés. Donc, oui, sous le sacerdoce, le ministère de prêtre de Jésus, nous sommes bénéficiaires des promesses supérieures. C'est le ministère de notre grand prêtre qui nous donne accès à Dieu d'une manière définitive. Donc, dire que Jésus est mon Dieu, ce n'est pas un choix parmi d'autres possibilités. Dire que Jésus est mon Dieu, que je l'adore, c'est de prendre Jésus tel qu'il est, le grand prêtre qui me donne accès à Dieu de manière définitive. Alors, de nouveau, croyons-nous cela? Avons-nous oublié cela, chers amis? L'importance, l'unicité de ce que Jésus-Christ a accompli. Quel privilège que nous avons d'être bénéficiaires de ces promesses-là, de vivre aujourd'hui, de ne pas, on se plaint parfois de ne pas avoir pu vivre au moment où Jésus était avec les disciples. Mais vous savez, on est plus privilégiés que les disciples. Parce que nous, on vit après la croix et la résurrection. Après son ministère en tant que grand prêtre. On voit de manière plus claire que eux, nos privilèges. Et parfois, on se plaint. Comme si, oh, mais aujourd'hui, c'est pas comme cela était. Si, si. Si on creuse cela, c'est supérieur. Est-ce que nous sommes encore passionnés par ça, persuadés par cela? Alors, si oui, on passe au deuxième point. Profitons de ce privilège. Il y a trois exhortations majeures que nous voyons dans ces versets qui suivent. D'abord, chers amis, d'abord, nous commençons donc avec le verset 22. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, approchons-nous où, on pourrait se dire? Mais approchons-nous vers ce sanctuaire, le libre accès que nous avons par le sang de Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Jésus, parce que Jésus est notre grand prêtre, avons-nous fait le pas? Donc, il ne faut pas mettre l'image, de nouveau, mais si on est toujours ici, disons, dans le lieu saint, et on n'a pas encore fait le pas vers le lieu très saint, il faut le faire. Approchons-nous donc. Et si nous l'avons fait, ne retombez pas dans un ancien système. Non, continuons à bénéficier de ce ministère. Qu'est-ce que ça donne, ce ministère? Si nous nous approchons d'un cœur sincère, avec une pleine foi, est-ce que nous mettons notre confiance en Jésus? Qu'est-ce que ça donne? Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Si on demandait encore aujourd'hui, sans vue, êtes-vous confiant que Dieu vous acceptera? Si aujourd'hui vous devez le rencontrer, ayant posé la question à des chrétiens évangéliques, combien de personnes diront oui, oui? Combien d'entre nous diront, je l'espère? J'ai toujours l'impression qu'on oublie que notre mauvaise conscience est purifiée. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Il n'est pas question de dire « j'espère » parce que bon, j'ai fait mon mieux. Notre mieux, ça ne suffit pas. Il suffit de croire en Jésus-Christ et son ministère pour nous. Est-ce que nous avons bénéficié de cela? Pour me réveiller le matin, j'aime prendre une bonne douche. J'aime l'invention de ces magnifiques douches avec le truc en carré comme ça, et on se met en dessous. Quand je trouve en vacances ou chez quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, chez nous, ce n'est pas comme ça. Mais prendre un grand truc comme ça, quelle joie! Je peux rester là presque 12 heures et ma journée est complète. Mais après une douche, je me réveille de nouveau. Si c'est possible de faire face à la journée. Avant la douche, j'ai du mal. Le corps lavé d'une eau pure. Oh, quelle joie de savoir que je ne dois plus lutter avec une mauvaise conscience à tout moment. Que j'ai le corps entaché par le péché, lavé d'une eau pure pour une rédemption éternelle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Approchons-nous donc. Deuxièmement, chers amis, retenons fermement l'espérance. Continuons, verset 23, à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. C'est frappant qu'il dit reconnaître publiquement, n'est-ce pas, notre espérance. Il semble que ça fait référence à la pression publique extérieure d'un cadre pour eux, des juifs croyants, qui voulaient dire « Non, mes amis, vous vous trompez, vous vous écartez de ce que vous connaissez, de ce qui est certain, de ce qui est sûr, revenez vers nous. » Et peut-être parmi eux, il y avait des chrétiens qui étaient timides, qui n'osaient pas dire non. C'est clairement le cas, chers amis, que ce système pointe le doigt vers le Christ. Je place ma foi en Christ, c'est lui l'accomplissement de ses promesses. Que certains passent, oui, je crois qu'il est le Christ, j'aime Jésus. Mais quand il s'est trouvé dans la place publique avec tous ces juifs croyants à l'époque qui semblaient avoir raison, il se cachait. Il se disait, bon, là, je ne peux pas reconnaître Jésus. C'est trop imposant ce que les autres pensent. Et peut-être nous, dans notre lieu de travail aujourd'hui, je suis confortable ici, week-end d'église, entouré d'autres chrétiens. C'est une autre affaire, n'est-ce pas? De s'afficher comme chrétien dans un environnement où il y a autant de personnes qui pensent autrement, autant de personnes qui peuvent se moquer de nous, autant de personnes peut-être plus intelligentes même que nous, qui sont à l'aise à donner des raisons pour dire que c'est difficile de croire aujourd'hui. Et là, on se dit, alors, tête baissée, je dis rien. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, sans dire, ah, pour finir, peut-être je n'ai pas raison. Est-ce que vous revenez de temps en temps et vous dites, oh, tout ça, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est mieux juste de jouer au foot comme les autres? Ou c'est mieux juste de dépenser mon argent comme les autres? C'est mieux de profiter de mon temps comme les autres? Non, sans fléchir, rappeler de la vérité de ces choses. Non, pas juste de l'habitude. Non, l'habitude en tant que telle n'est pas suffisante. Que c'est vrai, c'est réel. Parce qu'on se rend compte qu'on est sur le bon côté de l'argument ici. Et on doit être persuadé que c'est le cas. Si on est persuadé que c'est le cas, alors reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir. Oui, ça va être difficile. Mais celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Digne de confiance. Cela met un accent, n'est-ce pas, sur ce qui est encore à venir. Ici, c'est très réaliste. Reconnaître publiquement notre espérance. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'accomplissement de cette espérance. Aujourd'hui, c'est difficile, la vie chrétienne. Il y a ceux qui s'opposent à la foi chrétienne. Si nous voulons mener une vie pieuse, nous dit l'apôtre Paul, il va y avoir persécution. Est-ce que nous avons compris cela? Nous ne vivons pas dans la climatisation. Ah, c'est toujours sympa la foi chrétienne. Non. Parfois, il n'y a pas de but en climatisation du tout. C'est difficile. Et on se demande, comment est-ce que je vais persévérer? Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Suivons les choses ici-bas, hein, pour les chrétiens, n'ont pas l'air alléchant. Parfois, on est peiné par le péché, on est découragé par rapport au progrès qu'on voit chez les autres, qu'on voit dans notre propre église, qu'on voit en nous-mêmes. Mais il y a une espérance à venir. Retenons fermement l'espérance. Une ville céleste qui nous attend. Celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Alors maintenant, on arrive aux troisième exhortations. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Nous ne nous attendons pas, donc nous ne sommes pas dans cette phase d'espérance tout seul. Nous faisons partie de ce seul homme nouveau, l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'Église locale, qui est l'expression terrestre, terre à terre, concrète de cette ville céleste, ce rassemblement céleste autour du trône. Nous sommes une expression concrète de ce rassemblement céleste. Et donc, j'appartiens à d'autres. Si vous voulez, nous devons passer le cap de ce mot de dire aujourd'hui, je vais à l'église. et de comprendre plutôt que je suis l'Église. Pas moi seul, mais je fais partie de l'Église de Jésus-Christ par la foi. Si je fais partie de l'Église de Jésus-Christ par la foi, ce n'est pas une option d'aller à l'Église, vous savez, mes amis. Nous sommes l'Église. C'est ridicule de dire « je vais à l'Église ». Okay? Moi, je suis l'Église et je vais à l'Église. Mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est nul comme terminologie. Parce que ça me fait penser que l'Église, c'est extérieur de moi. Non, je fais partie du corps de Christ, du peuple de Dieu, par la foi. Et donc, j'ai une responsabilité, comme les autres ont une responsabilité, de veiller les uns sur les autres. Et qu'est-ce que ça implique de veiller les uns sur les autres? Deux choses. N'abandonnons pas l'assemblée chrétienne. N'abandonnons pas l'assemblée chrétienne. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume. Certains vont désister. Peut-être par souci de persécution, peut-être par déception que l'Église ne répond pas à toutes mes attentes, mais nous ne devons pas abandonner l'assemblée chrétienne. Je pense que nous devons faire attention ici. Ce n'est pas ici un verset qui permet à un pasteur d'une église locale à tous ses brebis, comme moi ici aujourd'hui, de dire « vous ne pouvez jamais quitter cette église locale, sinon vous abandonnez la foi ». Non, il y a de temps en temps des bonnes raisons de quitter cette église pour aller par exemple à Louvain-la-Neuve. Peut-être je vais jouer cette carte-là. Non, vous abandonnez pas l'Assemblée. Vous n'avez pas lu Hébreux chapitre 10. À ce moment-là, vous devez me répondre. Non, Steve, tu as mal compris Hébreux chapitre 10. Et ici, il s'agit de désister dans la foi chrétienne, de commencer à dire bon, « l'Assemblée chrétienne n'a pas d'importance. Je peux vivre ma foi de manière personnelle sans reconnaître publiquement. Ça me convient. » Non. Je dois être soucieux de l'Église de Jésus-Christ, de l'Assemblée chrétienne. À cela, j'aimerais dire ceci, on ne dit pas toujours ceci, mais cela doit signifier, chers amis, en pratique pour nous, que la première date dans l'agenda pour une année, c'est le dimanche matin, 52 dimanches. Sans hésiter, la première date qu'on met dans l'agenda, c'est le dimanche, après dimanche, après dimanche. Je dois être là 52 sur 52. Bien sûr, il y a des exceptions dans notre parcours. Parfois, je vais dans une autre ville en voyage pour les commerces. Parfois, j'ai d'autres obligations. Dans une autre église, on m'invite. Parfois, je dois assister à une fête familiale qui a lieu exceptionnellement ailleurs. Et donc, il y a des exceptions. Mais quelle est la règle? La règle, c'est que je mets cette date toutes les semaines et rien d'autre bouge pour ça. Par cela, je veux dire, j'ai le dimanche matin dans l'agenda et ensuite, j'ai mon filleul qui dit, écoutez, l'anniversaire, ça commence à 11h dimanche matin. Alors, je dis, je regrette, mais j'ai déjà quelque chose dans l'agenda. J'aimerais bien participer tant que je peux. Est-ce qu'il y a moyen de mettre ça à un autre moment? Mais si je fléchis devant toute autre possibilité, c'est-à-dire que l'Église chrétienne, l'Assemblée chrétienne, ne valent pas beaucoup pour nous. Il y a ça, oh bien sûr je viens, il y a ça, bien sûr je viens, ça, bien sûr je viens. Une fois par mois, je suis là. Alors là, je ne suis pas en train de reconnaître l'importance de l'Assemblée chrétienne. Pourquoi? Parce que, deuxième point, nous devons nous encourager mutuellement. Est-ce que je viens à l'Église comme consommateur? Je viens pourvu que la prédication soit à la hauteur. Pourvu que chacun m'accueille comme j'ai le droit d'être accueilli. pourvu que la musique soit suffisamment bonne pour mon goût. Pourvu que il y a suffisamment d'autres personnes qui me ressemblent. Culture, langue, goût, préférence. Est-ce que je mets des conditions pour mon assemblée? Et je dis, pourvu que ces choses-là soient remplies, ah ok, je viens. Je suis toujours consommateur à ce moment-là. Je viens, moi, afin de bénéficier de quelque chose. Certaines choses doivent être en place, nous sommes d'accord. Il n'est pas question donc de dire que nous pouvons nous adhérer à une assemblée chrétienne qui continue à mettre l'accent sur l'ancienne alliance, qui ignore Jésus et la nouvelle alliance. À ce moment-là, nous devons trouver une église où Jésus-Christ est prêché. Certaines choses sont indispensables, bien sûr, nous devons avoir une sagesse sur ces points-là. Mais beaucoup, beaucoup de fois, on entend parler des chrétiens qui viennent afin de consommer. Mais d'abord, si nous faisons partie avec d'autres de l'Église de Jésus-Christ, nous avons une responsabilité les uns envers les autres, encourageant-nous mutuellement. Certains seront à un moment donné ou à un autre fatigués, distraits, découragés. Collectivement, nous avons un regard les uns pour les autres. Je pense qu'il y a un danger pour une église grandissante, une église peut-être de notre taille, de se dire, écoute, l'église tourne bien, pas besoin de moi. Je peux donc prendre la décision d'être là de temps en temps. Ils ne vont pas manquer si je ne suis pas, si je fais pas le café cette semaine-ci, si je ne suis pas là pour chanter cette semaine-ci. Personne ne va le remarquer. Ça va. Mais c'est d'oublier que j'ai une responsabilité envers les autres. Je ne viens pas à l'église pour moi, quand ça me convient. Et cette semaine, ça ne me convient pas, mais peu importe, ça va pour une grande église, ça ne va pas faire de différence. Mais on ne vient pas pour nous, tout d'abord. On vient parce que nous faisons partie de l'assemblée chrétienne par le sang de Jésus. Et j'ai une responsabilité envers les autres. Donc, au lieu d'aller toujours dans une église en disant « qu'est-ce qu'il y a là pour moi ?» Nous devons, et peut-être ici en Belgique, c'est important d'être conscient de cela. Nos églises sont souvent assez petites, nos églises évangéliques. Souvent dépendent de peu de personnes. Et je pense qu'il y a un danger. On dit, si ça ne me convient pas à moi, écoute, merci, je n'ai pas besoin d'église. Si, mais si j'adopte une attitude que je suis disciple de Christ, je suis appelé pour servir cette Église, être missionnaire dans cette Église. Non pas qu'on est envoyé dans un sens formellement par une autre Église comme missionnaire, mais envoyé par Dieu pour servir. Que puis-je faire? Bien sûr, cette Église ne serait pas parfaite. Bien sûr, si j'entre dans l'Église, ça signifie que ce n'est pas une Église parfaite. Parce que moi, j'y suis. Mais même si on dit ça, parfois, toutefois, on continue à avoir cette pensée. Bon, ici, c'est moche. Ici, les gens, oh. Mais si je dis, moi, aide-moi, Seigneur, à servir ici, à apprendre sur les autres, à vouloir prendre le pas pour poser des questions, pour comprendre ce que les autres vivent, encourageant-nous mutuellement. Ça signifie non seulement juste d'être là, je suis encouragé par ta présence, mais qu'on en parle. Que ces vérités de Hébreux 8, 9, 10 deviennent des vérités. Que nous servons de ces vérités pour encourager les autres. Pour comprendre qu'il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne. Bien sûr, si chaque fois que j'ai rencontré, juste ce dernier temps, quelqu'un qui avait besoin de recevoir de cet encouragement. Son mari vivait, avait un travail qui faisait qu'il était... pour plusieurs mois, je pense que c'était 9 mois sur 12, il était absent de la Belgique. Et elle avait la charge de ses 3 enfants et allait à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle se trouvait dans une petite église en Wallonie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette église n'avait pas vraiment de main-d'œuvre pour l'école de dimanche, elle, avec la charge de 3 enfants toute la semaine, à la maison, parce que son mari n'était jamais là, On lui a dit, ah, super que tu sois, merci d'être venu à l'église. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est chouette, n'est-ce pas? Bah, tu peux faire l'école de dimanche quand on a vraiment un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2-3 mois, on lui a demandé de faire l'école de dimanche tous les dimanches. Il n'y avait personne d'autre. Donc, non seulement elle avait le poids à la maison, mais elle avait le poids à l'église. À un moment donné, elle a dit, je n'en peux plus. Et donc, elle a dit de ne plus venir dans cette église-là. Ce n'était pas la bonne décision, ultimement. C'est très bien d'essayer de parler avec la personne pour pouvoir trouver des solutions. Mais si nous, en tant qu'église aussi, nous ne reconnaissons pas que parfois, il y a des moments où nous devons aider les autres à un prix de nous-mêmes, mes amis. Est-ce que vous pouvez faire ceci? Non, j'ai déjà mon programme. Et si j'ai déjà mon programme et je ne veux pas être gêné, alors ne fréquentez pas une église. Parce que le service des uns et des autres signifie que oui, j'ouvre du temps pour les autres. Mais parfois, je peux donner un peu plus, parfois un peu moins. Mais la vie de l'Assemblée fonctionne si tout le monde est comme ça. Mais on est conscient dans l'ensemble que nous encourageons les uns les autres. Et cela, chers amis, tout à la fin, en vue de quoi? Cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. D'autant plus, le jour s'approche de la réalisation ultime de ses promesses. Et donc, nous avons besoin de retenir cela devant les yeux. Encourageons-nous, parce que ce jour vient. Quel dommage de lâcher juste avant la réalisation. Il ne faut pas lâcher, il faut maintenir jusqu'au bout. Réalisons, chers amis, notre responsabilité les uns envers les autres. Donc voilà, quel privilège pour nous d'être chrétien. Rappelons-nous de ce privilège. Et deuxièmement, profitons de ce privilège. Approchons-nous de Dieu par Jésus-Christ. Retenons fermement l'espérance chrétienne qui est la nôtre. Et veillons les uns sur les autres. Tout cela, Seigneur, tout cela en vue de ce grand jour qui s'approche. Le jour où nous serons pleinement avec notre Dieu dans la nouvelle création. Et cela grâce au ministère de Jésus-Christ. Je vous invite, chers amis, à prier avec moi. Quelle joie, Seigneur, d'avoir pu parcourir ces chapitres qui nous parlent de Jésus, notre grand prêtre, médiateur de cette nouvelle alliance, qui a procuré pour nous cet accès à Dieu définitif. Il a ôté nos péchés, il nous a donné une rédemption éternelle. Que tu sois loué, Seigneur, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous te demandons que collectivement, en tant qu'assemblée, nous puissions profiter de ces privilèges que tu nous as donnés. Donne-nous, Seigneur, de veiller les uns sur les autres, en vue de ces réalités, en vue de la pression autour de nous dans ce monde, de lâcher, de retomber vers la religion ou d'autres choses. Donne-nous d'être conscients de notre besoin des uns des autres, conscients de notre besoin d'entendre la parole de Dieu dans l'assemblée chrétienne, d'être encouragé par toi et de pouvoir encourager à mon tour les autres. Prépare-nous, Seigneur, nous te prions, pour ce grand jour qui s'approche du retour de Christ, du rassemblement céleste dans la nouvelle création. Donne-nous de continuer à dépendre de toi, parce que toi qui nous as fait cette promesse, toi tu es digne de confiance. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.
Nous allons maintenant pratiquer ce que Jésus nous a approchés de Dieu dans la prière.